mais du coup, je vais...
Le premier rendez-vous du cabinet des lecteurs.
Je fais une anti-sèche.
Amandine Tamayo, Peuple et Culture Marseille.
Donc le projet, c'est le cabinet des lecteurs, une proposition de regroupement de lecteurs, d'amoureux du livre et des auteurs et des écritures. Et l'idée, c'est de se réunir et d'échanger autour des livres qu'on aime, des auteurs qui nous ont intéressés, touchés. Donc...
Que tu fasses autre chose et que tu laisses ton cerveau chercher pour toi.
Voilà, donc on a proposé, on initie des rendez-vous. Rendez-vous qui auront lieu dans différents lieux de la ville bibliophile, on va dire, autour du livre. Donc ça peut être des librairies, comme ce soir, hein, puisque. Premier soir, on est à la librairie Histoire de l'œil.
On a un tire. Celui-là, je n'en retire aussi. Celui-là, je n'en veux pas.
Ah, ben bah voilà, je tombe dessus.
Ah, Carver.
C'était Carver.
Mais aussi des lieux qui auront un rapport peut-être autour de l'écriture ou d'un type d'écriture, comme par exemple, peut-être on aura un rendez-vous un jour au CIPM. On va aller, le prochain rendez-vous est au Théâtre de la Minoterie. Le Théâtre de la Minoterie a une bibliothèque de théâtre contemporain. Et bien sûr, chaque lieu où on s'arrête proposera aussi une de ses lectures, ce qui permettra également de découvrir des écritures, des formes, des propositions différentes.
Carver,
ah oui,
j'avais Carver en tête.
Ah, bien. Hein? Bravo!
Bah voilà. C'est triste, hein?
Mais non! C'est triste, mais c'est pas désespéré. Penses-tu?
Donc, c'est un point de départ, ces rendez-vous, et un projet à construire ensemble en groupe. Ensemble en groupe, c'est-à-dire que le projet pourra évoluer en fonction des personnes qui vont venir, des lectures, peut-être choisir des thèmes.
Je peux vous aider, vous aussi, vous vous souvenez plus du titre que vous allez présenter ce soir.
On a posé donc un certain nombre déjà de rendez-vous, donc aujourd'hui à Histoire de l'œil, le lundi 14 mars, nous serons à la Minoterie, le 12 avril, nous serons à Mille Babord. Donc à chaque fois, c'est en fin de journée hein, pour permettre aux gens de venir après leur travail. Donc c'est soit 19h à la Minoterie, soit 18h30 à Mille Babord. L'idée, c'est que peut-être petit à petit, il y aura un groupe fidèle, mais que dans chaque lieu, il y ait des gens nouveaux qui puissent arriver avec leur lecture et trouver leur place et à la fois écouter. Ben, les propositions des autres et découvrir voilà ce où en est le groupe, les différentes propositions, et puis venir avec la lecture qui lui tient à cœur, l'auteur ou une thématique aussi qui pourrait l'intéresser. Et voilà, après peut-être que ce qui pourrait être intéressant, mais on verra vraiment comment ça se construit, c'est que par exemple un livre lu soit lu par un autre lecteur la fois d'après, qui en parle à son tour, qui ait des réponses sur un livre. Voilà, et petit à petit se construisent comme ça un parcours de lecture, un parcours littéraire.
Un petit verre de vin blanc, de vin rouge, de jus de fruits ou d'eau.
Pour le moment, merci. Oui, tout à
L'idée, c'est vraiment que les lieux, vraiment aussi, on ne vient pas dans les lieux parce que seulement il y a des livres et qu'on a plaisir à les regarder, mais c'est aussi vraiment que le lieu soit force de proposition et amène un peu des lectures. Voilà.
Ah, mais c'est pas lui hein, qui a présenté ce soir. Hein.
Ah, bon, d'accord.
Ah, non. Non, je cherchais juste.
Peuple et Culture Marseille, c'est une association d'éducation populaire qui existe depuis maintenant 2003 à Marseille et qui, en effet, a un fonctionnement vraiment collectif et met en place déjà depuis plusieurs années, par exemple, des ateliers de programmateurs-spectateurs, hein, puisqu'on travaille à la fois sur le cinéma et la littérature, sur le langage et l'image. Et donc, les ateliers de programmateurs-spectateurs, ce sont des groupes qui se réunissent autour de thématiques, autour d'envies communes, et qui vont proposer des programmations en discutant ensemble. Hein, donc, c'est vrai que le cabinet des lecteurs n'est pas éloigné de cette idée-là, d'un ensemble d'amateurs, de gens qui ont envie et un goût commun ou des thématiques qu'ils ont envie de faire partager. Et donc on est quand même vraiment dans cette idée d'échange, de construire ensemble des projets. Et voilà, on est vraiment dans cette continuité-là. Du coup, peut-être on peut commencer doucement à parler des livres qu'on a amenés ce soir. Ça peut être, enfin, c'est pour ça qu'on est venu en premier.
Moi, je viens commencer.
D'accord.
Alors, bon, donc c'est le livre de Chimamanda Ngozi Adichie, L'hibiscus pourpre. Kambili a 15 ans. Son monde est limité au mur de la résidence luxueuse d'Enugu, au Nigeria, où elle vit avec ses parents et son frère Jaja. Son père, Eugène, est un riche notable qui régit son foyer selon des principes d'une rigueur implacable. Sa générosité et son courage politique, il possède le seul journal indépendant du pays, en font un véritable héros de sa communauté. Mais Eugène est aussi un fondamentaliste catholique qui conçoit l'éducation de ses enfants comme une chasse au péché où les plus terribles punitions trouvent leur justification dans la foi. Quand un coup d'État vient secouer le Nigeria, Eugène, très impliqué dans la crise politique, est obligé d'envoyer Kambili et Jaja chez leur tante. Les deux adolescents y découvrent un foyer bruyant, plein de rire et de musique. Ils prennent goût à une vie simple qu'ils croyaient dangereuse et païenne et ouvrent les yeux sur la nature tyrannique de leur père. Lorsque Kambili et son frère reviennent sous le toit paternel, le conflit est inévitable et la maison se transforme en champ de bataille où les enfants vont se révolter pour gagner leur liberté. L'hibiscus pourpre est un roman bouleversant sur la fin de l'innocence, la violence domestique, l'intolérance religieuse et l'émancipation.
Voilà, donc Nigeria, bon, qui est une des malheureusement nombreuses illustrations des drames que continue de connaître ce continent ignoré du plus grand nombre, alors que c'est un continent absolument fabuleux, quoi. Mais bon, je ne vais pas basculer dans... Voilà. Dans la foulée, j'ai lu un second roman de cette jeune femme qui, cette fois-ci, me réintroduit parce que j'ai un âge où je connais cette partie de l'histoire tragique de ce pays, celle du Biafra, qu'elle a, au terme d'une recherche très systématique de témoignages, qu'elle a réussi à restituer avec son talent de romancière, de jeune romancière, ouais, qui fait aussi un autre roman tout à fait magnifique.
Mais ça veut dire que, par exemple, pour ce livre, elle part de témoignages, enfin, je veux dire, elle enquête au départ ou...
Oui, elle l'évoque, hein, l'autre, puisqu'elle elle a pas l'âge d'avoir connu cet épisode, un des épisodes tragiques de ce pays. Vous êtes quasiment, je crois que d'ailleurs vous êtes plusieurs à ne pas pouvoir l'avoir connu, vous êtes trop jeune, qui a bouleversé le monde avec des photos absolument terrifiantes. En particulier de ces enfants là qui autour de ce conflit il y a eu qui a été vraiment une tragédie, enfin, c'est une histoire de partition en fait, hein, de ce grand pays avec des famines terribles et avec le monde entier qui est resté spectateur une fois de plus, j'ajoute.
C'est quoi l'histoire le point de départ l'histoire.
Pour celui-ci, c'est une famille en fait qui traverse, là en l'occurrence, une des dictatures qu'a connue ce pays, Et on suit une famille qui est tenue d'une main de fer par un père qui est une terreur, mais qui est un grand entrepreneur dans ce pays, qui est le propriétaire d'un des journaux et qui courageusement s'inscrit en travers des entreprises de la dictature qui tient le pays. Et donc on est partagé entre la considération, sinon l'admiration pour le courage de cet entrepreneur, notamment dans l'accompagnement des cadres de son journal, qui sont en but à la violence de ces dictatures. Et d'un autre côté, on est confronté à la violence qu'à l'intérieur de la famille, cet homme exerce, en particulier sur une de ses jeunes filles. Mais il ne faut pas trop en dire pour... mais c'est ça la particularité. C'est, en tout cas pour moi, suis ma jeunesse est celle des luttes d'indépendance, d'une époque où les idéologies avaient encore rallié, notamment le jeune homme que je fus, qui était prêt à s'enthousiasmer, notamment pour ces luttes d'indépendance sur ce territoire africain et au-delà, parce que ça n'a pas manqué dans les années 60, notamment. Et puis, ce que, sur le plan des mentalités, cette fois-ci au niveau de l'intimité, les contradictions, c'est terrifiant, quoi.
Ça a l'air beau.
Ouais. Ouais, c'est bien écrit.
C'est rigolo parce que nous, on a pensé à des livres qu'on avait envie de présenter ce soir, et c'est vrai qu'on est aussi resté un peu dans
la continuité,
dans la continuité de l'Afrique. Et
Le silence des esprits de Wilfried Nsondé.
C'est donc un auteur, il est originaire du Congo, il a grandi en banlieue parisienne et il est installé depuis 15 ans maintenant à Berlin. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui appartient à la base au monde de la littérature. Il est chanteur-compositeur et reconnu comme tel sur la scène berlinoise. Et il nous a livré un premier roman, Le cœur des enfants léopards, qui a été assez reconnu par la critique et notamment par Ecclesio. Et c'est donc son deuxième ouvrage.
Terrorisé par un contrôle de police sur les quais de la gare de Lyon, Clovis Nzila vient de sauter dans un train de banlieue. Sans papier, clandestin, il s'assied au hasard d'un wagon surchauffé et tente de maîtriser sa peur. Face à lui, une femme l'observe, accepte en retour ses regards indiscrets, ne semble pas effrayée par sa triste apparence. Attentive, elle engage la conversation, perçoit le désespoir de ce jeune Africain. Ensemble, ils vont plonger sans retenue dans un mirage, convaincus de renaître des cendres du passé.
C'est la rencontre entre deux âmes meurtries, deux âmes hantées par des souvenirs. Donc l'un c'est Clovis, qui est un sans-papier venant d'arriver en France, et hanté par ses souvenirs d'enfants soldats au Congo, et avec la peur au ventre de se faire attraper par la police. Et de l'autre côté, Christelle, qui est elle infirmière, et qui est un petit peu meurtrie, elle part dans sa chair, dans son rapport aux hommes, et puis aussi subit une sorte de désert affectif et de vide, d'ennui. Et ils se rencontrent, ils vont échanger autour de cet amour naissant, se dévoiler et raconter leur histoire, en fait. Et en filigrane, en plus, il y a l'histoire, parce que le protagoniste principal... Clovis a une sœur jumelle,
dont il a été séparé dans des circonstances assez tristes. Et elle vient le visiter par songe, en songe, et elle lui raconte sa vie aussi. Donc on suit aussi la vie de cette sœur jumelle qu'il ne voit plus. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Qui m'a beaucoup touchée parce que, pour plusieurs raisons. Bah déjà parce que c'est très bien écrit, je trouve. On voit qu'il vient du monde de la musique, il y a un rythme, une mélodie, c'est poétique, c'est imagé, mais c'est tout. C'est ce rythme que j'ai beaucoup apprécié. Et puis, parce que ça permet aussi de déplacer le regard qu'on porte sur les sans-papiers, qui est un regard, voilà, un nom générique, derrière lequel s'effacent les individus, les personnes, leur histoire, et un nom générique qui impose des clichés véhiculés par les médias. Et là, justement, ce livre redonne toute la dimension de l'histoire individuelle et de l'histoire collective, à ces sans-papiers qu'on peut croiser, dont on entend parler. Et puis après, un thème cher à la littérature qui est l'amour, et là, une très belle vision de l'amour, puisque c'est un amour qui signifie échange, qui signifie don de soi, qui signifie douleur aussi, parce que ce sont deux réalités qui se rencontrent, qui ne sont pas les mêmes, mais qui se rencontrent sur le terrain de la douleur et qui donne lieu à un espoir, en tout cas un recommencement, une illusion d'espoir, je ne vais pas vous en dire trop, mais voilà. C'est un très beau livre, inégal. Alors les 50 premières pages sont assez... les 50 premières pages retracent donc la rencontre entre Clovis et Christelle. Et on sent que l'auteur, je ne sais pas, alors je ne parlerai pas en son nom, loin de là, mais en tout cas, c'est peut-être pas un terrain auquel il est habitué, parce que même si l'écriture est très jolie, elle est très belle, ça accumule un peu les lieux communs, les clichés, le hasard, le regard, toute la géométrie du regard, la mathématique du regard. Enfin, c'est pas très convaincant, hein, je vais pas non plus pour... Mais donc c'est une écriture un peu gauche. Et à partir du moment où justement cet amour qui devient le lieu de la parole et de la prise de parole, les 50 pages d'après, c'est une écriture qui se libère, qui commence à vivre et qui retrouve la crédibilité, de la véracité. Et c'est très beau de voir justement ce passage entre, finalement, peut-être qu'un narrateur timide par rapport à quelque chose qu'il ne connaît pas, puisque c'est vrai qu'il n'a pas vécu dans l'amour, et qui, quand il en arrive à raconter son histoire, ce qui fait la souffrance, cette Afrique de chaos et de barbarie qui finalement fait la matrice du personnage, c'est un terrain qu'il connaît, et son écriture devient sanguine, même presque, c'est très beau. Et puis c'est un livre tragique. C'est un livre tragique, vraiment dans le sens premier du terme. Je pense que le silence des esprits l'indique, parce que c'est un peu ces deux êtres abandonnés des dieux, un peu maudits, n'ayant pas le droit au bonheur, donc un peu l'exclusion, parce que c'est un thème quand même qui est cher à Wilfried Nsondé. Et c'est vraiment ça, ce premier sens de la tragédie, d'un sort qui s'acharne, des exclus du bonheur et qui ont le droit à ce songe d'une nuit d'amour, j'ai envie de dire. Et c'est un livre tragique aussi parce que c'est la tragédie proprement de la condition humaine, et le silence des esprits, c'est aussi ça. C'est peut-être qu'il n'y a pas d'esprit, que les esprits se taisent parce qu'ils n'existent pas et que l'homme en est réduit à lui-même. Et donc voilà, c'est ça. C'est un livre que je conseille parce que c'est un livre touchant, vraiment touchant. Voilà.
Je sais pas, pour ton coup, lire un petit peu. C'est bien aussi d'entendre un peu la langue.
Il y avait deux passages. Un, justement, où l'auteur, la pensée politique, le positionnement, la posture politique de l'auteur apparaît.
Et un autre où c'est une description un petit peu plus dure de la guerre civile. Donc. Je ne sais pas ce que vous préférez à cette heure-ci. Les deux que vous avez notés. La guerre civile. Armée Clovis Nisla. et autres tristes sires de son espèce, les écoliers, les chômeurs, les moins que rien, tous les damnés de la terre, puis jeter un voile opaque sur le monde, secouer très brutalement le tout dans tous les sens, inventer des paroles du néant, plus insensées et terrifiantes qu'un rugissement de fauves blessés, laisser subitement fondre la haine du monde, mijoter des techniques de torture avec le plus de raffinement possible, devant leur mère incrédule et affolée, piler des nouveaux-nés dans un des mortiers, avec une main ferme, armée d'amatons bien solides. Laisser périr la famille, l'amour et l'amitié, jusqu'à extinction totale. Attendez ensuite quelques morts, avec cette angoisse, au ventre qui renfuit, épicer les nuits d'une pestilence aux senteurs de terreur, de pillage et de flammes. Observez attentivement avec une caméra. Parfumez les actes de suspicion et de l'âpre goût du règlement, de compte, la lâcheté en prime. Pour finir, couvrez le ciel de silence, puis d'un astre blême de cruauté et de désespoir. Il en coulera des hurlements horribles d'enfants, de femmes, de vieillards, d'animaux, d'hommes à l'agonie sur des océans de sang. La guerre civile. Voilà pour un premier petit passage qui est assez dur. Alors attendez, c'était page 143, mais je ne suis plus sûre. Désolée. Voilà, c'était ça, je crois. Le premier monde votait, alors on fit de même. Désœuvré, je comptais parmi les premiers à s'inscrire sur la liste électorale. En secret, beaucoup d'entre nous espéraient ainsi découvrir le lieu où se tairait la grande magie des Blancs, en quête de ce phénomène étonnant qui devait se passer lors de ce moment quasi religieux qui laisse le citoyen dans le calme et l'intimité de l'isoloir. Les instituts d'analyse politique entamèrent des investigations avec le plus grand sérieux. Les experts constatèrent un état inquiétant des partis politiques. Pareil aux plantes qui fleurissent très rapidement sous l'équateur, ils pullulaient. Ce fut une orgie d'appellations très savantes. Un nombre très important de formations prirent part au débat, en précisant bien qu'ils se plaçaient à gauche, à droite, au centre, en haut, en bas, dans les airs. On leva dans les bordels des quartiers malfamés une légion de sans-culottes infectées de maladies sexuellement transmissibles. Les esprits simples mais pleins d'espoir comme le mien ne s'y retrouvaient plus. Il y eut parallèlement une véritable surenchère de programmes électoraux, concoctés par une génération spontanée de lettrés. Il s'agissait en fait de docteurs en droit, grammaire française, sociologie, sciences politiques, anthropologie, tourisme. D'ailleurs, on discutait ferme dans les bars et restaurants universitaires. Le corps électoral, souvent analphabète, n'y comprenait rien. La haine progressait. La crise, elle, résistait, tranquillement, à la démocratie, avec cette désinvolture qu'il avait fait triompher du communisme, de la torture, des maîtres de l'invisible, du tiers-monde, du développement et de la coopération. Voilà. Wilfried Nelson-Day.
Merci.
Vous voulez nous parler du livre que vous aviez...
Oui, que j'ai laissé sur ma table, mais j'ai récupéré le titre. Grâce. En fait, c'est un petit manuel pour écrire des haïkus par Philippe Costa. Et au départ, je l'ai acheté dans un objectif professionnel parce que je suis enseignante en langue et je pratique les ateliers d'écriture et je me suis dit, tiens, voilà, les haïkus, c'est très bien. Quand on a... Ça peut exprimer beaucoup de choses avec des moyens linguistiques réduits, c'est exactement ce qu'il me faut. Et ce livre, en fait, est une excellente surprise. Parce que c'est une entrée dans la culture japonaise tout à fait libérée de stéréotypes et des clichés les plus fréquents sur la culture japonaise. C'est en même temps très érudit. J'y trouve beaucoup d'éléments nouveaux sur la culture japonaise. Et je suis en train de le lire avec un immense plaisir. Il fait le tour d'un certain nombre, à la fois d'écrits qu'on peut qualifier de sots et de stéréotypés sur la culture du Japon, sur les haïkus en particulier, mais également sur des études beaucoup plus sérieuses. Il s'appuie sur l'auto-ethnographie, sur vraiment ce que des auteurs japonais disent de la littérature et de la culture japonaise. Et en plus, ça répond aussi tout de même à ma demande initiale qui était comment travailler le haïku en atelier d'écriture dans n'importe quelle langue. Et l'autre plaisir que j'ai à lire ce livre, c'est qu'il est à la fois très érudit et très modeste et avec beaucoup d'humour.
Parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec le haïku en général. Je me dis que ce serait peut-être une façon de rentrer peut-être dans une forme qui m'est... qui me touche pas en fait, hein, j'avoue que j'ai vraiment du mal.
En plus, j'ai découvert grâce à ce livre, en fait, souvent de la culture japonaise, on ne connaît que la culture très aristocratique. Et il explique comment le haïku et ce type de littérature a été utilisé au Japon comme moyen de militantisme populaire à un moment où la censure faisait rage, et comment via cette littérature populaire il y a eu vraiment une créativité sur une très vaste échelle. Et ça, c'est un aspect de la vie japonaise que l'on connaît peu, la création militante. Donc je me régale.
Alors, un des stéréotypes qu'il met en pièce, Philippe Costa, c'est l'idée de la fulgurance. Et c'est vrai qu'on lit beaucoup ça sur les haïkus, qu'écrire un haïku, c'est il faut se préparer mentalement, et puis c'est comme le tir à l'arc, d'un seul coup on est prêt, et la flèche part, et le haïku arrive écrit tout près. Et lui, il dit, mais non, pas du tout, depuis le 15e siècle où on a commencé à écrire des haïkus, quand les personnes, comme Bosha, comme d'autres auteurs, parlent de leur processus d'écriture, ils expliquent à quel point ils sont dans les brouillons successifs, dans les ratures, dans les tâtonnements, comment ils jettent certains textes, les reprennent. Donc on n'est pas du tout dans la fulgurance et dans l'illumination. L'autre cliché étant l'association du haïku avec l'esprit zen, la méditation, et que lorsqu'il y a des petits haïkus du type la grenouille dans la mare l'été plonge, il faudrait y voir un sens caché. Et là, justement, Costa dit, mais non, pas du tout, il faut arrêter, il n'y a pas de sens caché à voir, c'est une forme littéraire, point barre. S'il y a eu un sens caché, c'était dans l'autre versant de cette littérature très courte qui était utilisée pour militer, mais rien à voir avec la méditation zen.
Il n'y a plus ni ciel ni terre, rien que la neige qui tombe sans fin. Le mince trou fait en pissant dans la neige devant la porte. Le mince trou fait en pissant dans la neige devant la porte. Un étang au cœur de la forêt, la glace est épaisse. Nu, sur un cheval nu, sous la pluie tombant, averse. Comme si rien n'avait eu lieu, la corneille et le saule. Nu, sur un cheval nu, sous la pluie tombant, averse. Il n'y a plus ni ciel ni terre, rien que la neige qui tombe sans fin.
Mais par rapport à la méditation, moi j'avais lu un article qui racontait que le haïku servait un peu comme à se répéter en permanence le haïku, une formule donc simple à mémoriser pour se le répéter en permanence comme ça dans la tête, afin de justement de vider la tête.
Tu dois pouvoir faire ça avec les pages jaunes.
Ah mais je dis pas le contraire, puisqu'apparemment on peut le faire avec beaucoup de choses, mais que le haïku avait...
C'était le cabinet des lecteurs. des rendez-vous réguliers proposés par Peuple et Culture Marseille pour explorer et partager les plaisirs de lire, une communauté active de lecteurs pour rencontrer auteurs et écritures et les donner à entendre. Avec des discussions et extraits des livres « L'hibiscus pourpre » de Chimamanda Ngozi Adichie, « Le petit manuel pour écrire des haïkus » de Philippe Costa et « Le silence des esprits » de Wilfried Nsondé. Le prochain cabinet des lecteurs se déroulera le 14 mars au Théâtre de la Minoterie.